Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Culture G.
Cultivez votre curiosité.
Bonjour à tous, il était une fois dans une galaxie lointaine, très lointaine, des vaisseaux spatiaux qui pouvaient voyager à la vitesse de la lumière. Est-ce totalement invraisemblable? Tel Han Solo, embarquons dans le Faucon Millenium, mettons les gaz pour démêler ensemble la fiction de la réalité.
Mais ça, bleu les chocottes!
Si vous avez déjà regardé ne serait-ce qu'un seul des films de la saga Star Wars, La Guerre des Étoiles, vous avez pu voir les différents protagonistes utiliser des vaisseaux capables de se déplacer à une vitesse supraluminique, c'est-à-dire à une vitesse supérieure à celle de la lumière. En deux temps, trois mouvements, Han Solo et Chewbacca rentrent leurs coordonnées de destination et paf, ils y sont. Par quel moyen? Grâce à un générateur d'hyperdrive alimenté par de l'hypermatière, le Faucon Millenium peut s'hyperpropulser, faire un saut dans l'hyperespace. Tout ça c'est évidemment hyper génial et surtout hyper fictif, je vous explique. La lumière est une onde électromagnétique. Elle est composée de minuscules particules sans masse, les photons. Et leur vitesse de déplacement dans le vide est une constante que l'on pourrait qualifier de limite fondamentale proche des 300 000 km par seconde. À ce jour, et c'est très peu probable que cela arrive, aucun scientifique n'a encore jamais découvert d'objet dans l'univers qui soit capable d'aller à une telle vitesse, et encore moins au-delà. Même si en effet, ça serait génial, à la vitesse de la lumière, faire le trajet Terre-Lune prendrait moins d'une seconde et demie, et on pourrait aller sur Mars en quelques minutes, si on ne tient pas compte bien sûr des temps d'accélération et de freinage. Toutefois, l'univers est immense, et même à la vitesse de la lumière, il faut compter près de 5 ans, précisément 4,244 années-lumière, pour se rendre sur l'étoile la plus proche hors de notre système solaire, Proxima du Centaure. Autant vous dire que le déplacement en un claquement de doigts, c'est de la fiction.
Capitaine Solo, cette fois vous êtes allé trop loin.
Et même si ça n'était pas de la fiction, pour envisager que l'être humain soit un jour capable de voyager à la vitesse de la lumière, il faudrait déjà régler trois problèmes majeurs. Le premier, c'est la question de la masse. Au début du XXe siècle, Albert Einstein a énoncé la théorie de la relativité restreinte. Elle dit qu'un objet qui subit une accélération voit sa masse augmenter. D'après cette théorie, si un objet s'approchait effectivement de la vitesse de la lumière, sa masse deviendrait infinie. Comme je vous l'ai dit, le photon est une particule sans masse, et c'est bien pour cela que la vitesse de la lumière est une limite physique. D'autant que pour faire avancer n'importe quel objet, il faut de l'énergie, même dans le vide, et plus l'objet est lourd, plus il faut de carburant. Il est donc parfaitement impossible d'alimenter un vaisseau spatial dont la masse est infinie. Avec nos systèmes actuels de propulsion dans l'espace, d'après le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, si on voulait rejoindre Proxima du Centaure à seulement 10% de la vitesse de la lumière, il nous faudrait une quantité de carburant plus grande que la masse totale de l'univers connu.
Tu ne connais pas le pouvoir du côté obscur.
Il faut ensuite régler le problème de la déformation de l'espace-temps. Si le temps est souvent perçu comme un concept qui n'a pas de réalité physique, il est en fait dépendant d'un référentiel dans l'espace. Je suis d'accord, c'est un peu complexe, je vais donc vous donner un exemple. Supposons qu'Han Solo parte de Coruscant pour se rendre à Tatooine. Si son voyage à une vitesse équivalente à 90% de la vitesse de la lumière dure 3 jours à bord du Faucon Millenium, à son arrivée, il sera en réalité parti de Coruscant 5 jours plus tôt. Sur deux horloges strictement similaires, une restée sur Coruscant et l'autre placée dans le vaisseau d'Han Solo, le temps ne se sera pas écoulé à la même vitesse. Imaginez alors les conséquences d'un long voyage de plusieurs années à l'autre bout de la galaxie. Les fans de Star Wars verront peut-être ici l'explication à l'exceptionnel vieillissement d'Obi-Wan Kenobi entre le 3e et le 4e film de la saga. En seulement une vingtaine d'années dans l'histoire, il semble en avoir pris le double.
Obi-Wan Kenobi. Ce nom, tu vois, il semble vraiment ressurgir d'autres tombes.
Enfin, le 3e et dernier problème majeur, c'est que l'espace n'est pas vraiment vide. L'espace interstellaire est composé notamment d'hydrogène, à une densité d'environ 1,8 atomes par centimètre cube. Effectivement, c'est presque rien, mais si un vaisseau atteignait la vitesse de la lumière, ces particules deviendraient extrêmement dangereuses. Elles se transformeraient en un rayonnement intense qui tuerait les passagers du vaisseau et endommagerait l'électronique de l'appareil. Dans l'espace, il y a aussi des astéroïdes et même de simples particules de poussière. À 300 000 km/s, c'est-à-dire à plus d'un milliard de km/h, la moindre poussière peut désintégrer un vaisseau. Il faut donc impérativement qu'il soit équipé d'un super bouclier, et s'il tombe en panne, en un instant... Allez, ce n'est pas demain la veille qu'on voyagera à l'autre bout de la galaxie dans un vaisseau hyper propulsé. La vitesse de la lumière reste réservée aux photons et au cinéma. Merci d'avoir écouté cet épisode, le premier de cette série d'été consacrée au cinéma. J'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast Culture G et à mettre un hyper gentil commentaire. On se donne maintenant rendez-vous lundi prochain pour découvrir ensemble la véritable histoire de Kaamelott.